poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Livre monde, sainte totale, tresse magique et chant céleste, aujourd'hui Hildegarde von Bingen en personnage toujours recommencé.
Toute Buße! Werft euch nieder! Und erwartet in Stille den Herrn.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
Wir leben hier in einer Gemeinschaft. Wir essen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir schweigen zusammen.
Léo-Henri, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, à toutes et à tous, pour vous accueillir un extrait de la bande-annonce américaine, je précise, au cas où on ne l'aurait pas entendu, du film que Margaret von Trotta a consacré en 2009 à la moniale bénédictine Hildegarde von Bingen, avec Barbara Sukowa dans le rôle titre. Une Hildegarde mystique, bien sûr, mais d'un genre un peu transgressif, comme on l'entendait dans la bande-annonce, on lui demande de tenir sa langue, s'opposant à l'ordre religieux, à l'ordre des hommes et créant une communauté harmonieuse de femmes. Une lecture, une actualisation possible de celle qui fut abbesse, poétesse, compositrice, guérisseuse, fondatrice de l'abbaye de Rupertsberg au milieu du XIIe siècle. C'était d'abord ça, Hildegarde, pour vous, plus qu'un personnage historique, un personnage disponible.
C'était un personnage total, c'était une porte d'entrée pour parler du Moyen-Âge, pour essayer d'investir le Moyen-Âge et de l'explorer. Un aspect qui m'a frappé très très tôt dans mes recherches et qui m'a orienté dans le choix, c'est aussi le fait qu'elle a inventé une langue imaginaire et que jusqu'à très récemment, personne ne savait quoi faire de cette activité-là. Donc elle a été connue pour être musicienne, maintenant botaniste. Il y a beaucoup de choses de sa vie qui ont été utilisées, mais ce fait particulier me fascinait.
Alors c'est vrai qu'on en a fait une sorte de prophétesse de l'Apocalypse, ce qu'elle n'était pas par ailleurs. On ne compte plus les livres de recettes de tisane qui paraissent sous le label Hildegarde. On en a fait l'ancêtre de la naturopathie. Elle a été adoptée un temps par les nationalistes allemands, par le renouveau chrétien, par la mouvance New Age, par les féministes. Devendra Banhart ou Camille l'ont chantée, on l'entendra tout à l'heure. Elle traverse le nom de la rose. Plus récemment, elle a inspiré Matrix, le roman de l'écrivaine américaine Lauren Groff. D'après vous, à quoi tiennent toutes ces lectures possibles de Hildegarde, la vôtre comprise?
Ça, pour le coup, c'est un grand mystère. Alors, une des explications possibles, c'est qu'elle a été la première, homme ou femme, à faire acte d'autorité, dans le sens de désigner. Elle a, de son vivant, elle a rassemblé l'œuvre complète dont elle voulait que les gens se souviennent, et elle a posé son nom dessus. Donc, ce qui fait que c'est, par exemple, la première compositrice de l'Occident. Pas parce que personne ne composait de musique avant, mais parce qu'avant, c'était pas le corpus n'était pas attribué à une personne. Et du fait qu'elle a été la première à mettre son nom sur un corpus de texte qu'on peut lui attribuer, elle a été la première à faire une œuvre dramatique, genre une comédie musicale. C'est une des premières poétesses, etc. Mais donc, je pense que c'est cet acte de mettre son nom sur des textes qui étaient tout à fait exotiques à ce moment-là et qui en fait une pionnière juste de ce fait-là.
Surtout que c'était, c'est pas seulement le fait qu'elle soit une femme, c'était un moment aussi où la question de l'auteur était beaucoup plus floue qu'elle n'est devenue. Vous, Léo-Henri, c'est par la musique, d'une certaine façon, que vous l'approchez, si je me souviens bien, pour la première fois, par un jeu vidéo où il fallait reprendre la musique de Hildegarde sur un clavier en os. C'était il y a bien longtemps. À quel moment, ou plutôt qu'est-ce qu'il a fallu attendre pour qu'elle devienne un personnage, une héroïne, pour vous ?
Ça, c'est assez facile. C'est vers le milieu des années 2000, j'étais parti vivre au Brésil. Donc moi, je suis strasbourgeois d'origine. Et je suis revenu un hiver pour faire des sous, pour remettre. Donc, je suis allé travailler en intérim au bord du Rhin. Et en fait, je me suis dit que c'était le moment de rentrer par mon travail et donc d'essayer d'explorer cet endroit géographique et qui est aussi un endroit mythologique. Voilà. Donc, il y a évidemment des héritages de cette histoire rhénane à Strasbourg. Et c'est pas exactement le même endroit, mais c'est pas si loin. Et puis surtout, c'est vraiment la même culture. À l'époque d'Hildegarde, on avait Erhard de Landsberg qui était au Mont-Saint-Odile. Et donc, il y a un vrai continuum culturel à ce moment-là.
Alors, les éditions Volt rééditent votre Hildegarde, hein, qui est ce livre paru en 2018. Un livre que vous vouliez gros et sérieux, disiez-vous, à l'époque. Je ne sais pas ce que c'est quoi d'ailleurs un livre sérieux.
Alors ça c'est facile, c'est parce que je viens de la SF, enfin je viens vraiment des mauvais genres, vraiment mauvais genres, très périphériques. Et dans la SF j'ai été accueilli à la fois très chaleureusement et en même temps les gens me regardaient étrangement parce que je ne faisais pas de la vraie SF avec toutes les majuscules. Et donc je me suis dit, il est temps que j'aille faire de la littérature avec une majuscule aussi. Et donc donc je voulais faire un gros livre parce que je faisais des nouvelles et je voulais qu'il soit sérieux. Donc j'ai choisi un sujet extrêmement sérieux, une abbesse bénédictine du XIIe siècle, qui était en plus au moment où j'ai commencé à bosser dans le creux de la vague. Et donc les gens étaient un peu dubitatifs quand j'expliquais ce que je faisais. Et petit à petit, elle est redevenue à la mode, comme elle fait régulièrement tous les 20-30 ans. Et donc les gens m'offraient de la tisane pour m'encourager.
Fenouil et de l'épeautre. Ouais. Est-ce que vous diriez malgré tout que c'est un roman de genre ?
Alors c'est un roman parmi les nombreuses choses que j'ai essayé de faire avec ce livre. C'est un roman sur le genre. C'est-à-dire qu'une des questions qui s'est posée à moi, c'est pourquoi le corpus de la fantasy avait complètement coupé ses racines chrétiennes. C'est-à-dire que si on prend Tolkien, Conan, ces livres fondateurs de la fantasy, ils reviennent à des mythologies pré-chrétiennes, alors que l'imaginaire occidental est vraiment complètement imprégné de quelque chose qui ne relève pas du religieux, mais qui relève de la culture chrétienne, vraiment. Et les vies de saints étaient les ouvrages de divertissement, en fait, de l'époque, parce que c'est des récits complètement fous, en fait, avec des têtes qui parlent, des gens qui volent. Donc l'idée, c'était ça, c'était essayer d'écrire un livre de fantasy qui prenne au sérieux ce substrat culturel qui, à cette époque, est le réel, en fait. Le registre réaliste des vies de saints, c'est le merveilleux. Et le merveilleux, c'est au moins la moitié de la fantaisie.
Alors, une fois ça établi, il s'agissait de l'écrire, ce livre, Léo Henry. Ce livre s'organise d'une façon un peu particulière, d'une façon très polyphonique, sans se soucier d'ailleurs forcément de la chronologie, entre l'enquête à plusieurs voix, et puis une sorte de marqueterie ou de vitrail ou quelque chose un peu comme ça. Comment est-ce que vous en décririez le dessin, le tracé ? Parce qu'on a le sentiment d'une sorte de roman un peu circulaire, dont le centre serait Hildegarde.
Ouais, je pense que c'est une bonne description. J'ai mis Hildegarde au milieu. Enfin, j'ai vraiment posé Hildegarde au milieu du monde, et puis j'ai essayé de reconstruire le monde autour, dans son espace et aussi dans sa temporalité. Donc c'est... Je pense que c'est aussi un fleuve, voilà, parce que le Rhin est très très important dans cette histoire et que c'est aussi un truc sur l'écoulement du temps et tout ce qui est charrié là. Après, la construction, ça a été surtout une façon pour moi, c'est vraiment des outils pour arriver au bout du travail. Et je savais que c'était un travail énorme et ça m'a pris à peu près une dizaine d'années en tout entre la documentation et l'écriture. Et donc j'avais besoin d'avoir un canevas assez strict en fait pour pas me perdre dans toutes les pistes que je pouvais suivre.
Alors autour de cette vie de sainte et de toutes ces pistes racontées, alors la vie de sainte elle est racontée par ceux qui l'ont connue, en tout cas d'après vous, vous ouvrez avec quelques saintes précédentes, alors pardon pour la prononciation, je ne suis pas sûre, Heldendrud, Cordula, Elisabeth, Ursule, hein. Ouvrir avec elles, c'était ouvrir par quoi ?
C'est une tentative de... J'avais besoin, vraiment, ce premier chapitre, c'est le premier que j'ai écrit, c'est les premières pages que j'ai écrites de ce livre, en sachant que je m'engageais pour un espèce de marathon qui allait durer plusieurs années. Et donc j'avais besoin d'être très très près, je crois. Une des choses que j'ai utilisées pour réussir ce que je cherchais à faire, c'est d'être dans la matière, d'être dans l'existant, et d'être dans ce qui n'est pas exotique pour nous. Donc il y avait quelque chose sur aller voir... la terre, les arbres, les petites choses, en fait. Et donc, c'était ce premier chapitre et une espèce de zoom arrière, c'est-à-dire qu'on commence par une vie minuscule, pour le coup, vraiment minuscule, de quelqu'un qui témoigne de quelque chose que quelqu'un lui a rapporté. Et le but du jeu, c'était d'essayer de me donner à moi les moyens de gagner en scope, en fait, et c'était essayer de pas embrasser trop large pour commencer.
On arrive donc jusqu'à Hildegarde, j'allais dire un parcours classique de sainte ou de future sainte, née probablement en 1098, destinée au service de Dieu par ses parents, première vision à 3 ans, d'autres suivront évidemment, couvent à 8 ans, voile remis vers 14 ans, formation à l'abbaye de Disibodenberg dans le diocèse de Mayence. C'est là qu'elle va être nommée abbesse, avant qu'elle n'emmène vierge et veuve avec elle pour créer une première abbaye à Bingen, donc d'où le von Bingen, composée seulement de femmes, plus un homme pour dire la messe et pour confesser, je suppose, suivie d'une seconde abbaye. Alors il faudrait ajouter les voyages nombreux en véritable prophétesse qu'elle était, les livres écrits ou dictés, ceux des visions, ceux consacrés à la musique, ceux consacrés aux remèdes, à la mystique, ceux qu'on lui attribue, ceux qu'on ne connaît peut-être pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre, hein? Est-ce que ça suffit?
Je pense qu'il y a le fait important, outre qu'elle a eu le temps et elle a consacré beaucoup d'efforts à collecter ses œuvres et à dire « ça, je veux qu'on s'en souvienne et ça, c'est pas obligé ». Donc ça, c'est déjà un geste qui est extrêmement intéressant et puissant pour l'époque. L'autre chose vraiment importante, c'est que ses visions, c'était une visionnaire, et ses visions ont été reconnues véritables par le pape et par Bernard de Clairvaux, qui étaient les deux autorités les plus grandes autorités théologiques à l'époque. Le fait d'avoir ses visions reconnues comme véridiques, lui a octroyé un énorme pouvoir, dont le pouvoir de quitter sa communauté dans laquelle elle était magistrate du couvent féminin au Disibodenberg et de décider de faire sécession et de partir uniquement avec des femmes, ce qui n'aurait été absolument impensable si elle n'avait pas cette autorité-là qui lui était conférée par le fait que le Saint-Esprit parlait à travers elle. Et donc c'est assez difficile pour ses supérieurs de contrevenir aux décisions du Saint-Esprit. Donc
ça veut dire que c'est aussi un personnage de pouvoir, y compris dans l'usage de ses visions?
C'est un personnage de pouvoir, absolument. Après, la façon qu'elle a d'utiliser son pouvoir est aussi très intéressante, parce que pour que ses désirs à elle puissent se réaliser, il lui faut tout le temps minimiser son rôle. C'est-à-dire que ça ne peut pas être elle qui décide de quitter le Disibodenberg, il faut que ce soit le Saint-Esprit à travers elle qui le fasse. Et donc, elle adopte une position qui est assez intéressante de toujours se rabaisser elle-même, en fait. Elle dit « je ne suis qu'une simple femme, je suis ignorante, par moi-même je ne pourrais pas faire toutes ces choses merveilleuses que je fais », ce qui lui permet en réalité d'aboutir, en fait, d'arriver à ses fins.
Alors, au centre, vraiment au centre de ces cercles ou de ce fleuve, le chapitre titré « Vitas Hildegarde », où vous faites parler sa nourrice, un évêque, un soldat, une servante de l'abbaye, un pape, l'empereur Barberousse, un savant juif, comme une sorte de cœur comme ça qui esquisserait le portrait ou la vie de Hildegarde. Est-ce que c'est posé à un moment donné la question de la langue d'écriture, pour vous en tout cas, ou d'un travail particulier de la langue, ou de recréer une forme de langue des contemporains de Hildegarde?
La question de la langue se pose tout le temps, ouais, et elle s'est posée en particulier pour ce livre et pour ces parties-là. C'est une question qui est absolument insoluble, je pense. C'est mon premier essai de roman historique, mais je ne pense pas qu'on puisse parvenir à avoir le langage juste. Enfin, je ne sais pas si on peut y arriver, jamais. Là, une des solutions que j'ai adoptées, c'est d'utiliser du vocabulaire qui n'est pas exact, qui n'est pas proprement parlé moyenâgeux ou qui ne correspond pas à d'autres états du Moyen-Âge, mais qui sont désuets ou décalés. J'en sais rien. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple utiliser le mot soulier pour parler de chaussures. C'est vraiment un mot de ma grand-mère, donc ce n'est pas du tout un mot moyenâgeux, mais ça permet d'être à la fois compris et d'être légèrement ailleurs.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un petit extrait?
Très volontiers.
Recontextualiser, s'il vous plaît.
Donc c'est dans la Vita, c'est le témoignage d'un savant juif qui vient voir Hildegarde et qui, du fait qu'il connaît ses travaux, est persuadé qu'il va trouver une très grande bibliothèque dans son abbaye. Et il est très déçu de ne pas trouver de bibliothèque. Et donc c'est la réponse que lui fait Hildegarde. Donc c'est le savant juif qui prend la parole en premier. Tous les livres abondaient ne sont que des exégèses d'un seul grand ouvrage. Le Talmud, cependant, est indispensable à la Torah pour la quantité des éclaircissements qu'il lui apporte. « Je ne parle pas de celui-là, » me coupa Hildegarde, « mais de celui-ci. » Et de sa petite main, elle désigna autour d'elle la terre calcinée, les cendres fumantes, la rosée sur les herbes au-delà, le bousier sous la feuille, l'écorce fendue du merisier, le dogue brun à l'affût, les guêpes, les fleurs en boutons, la lame noire du fleuve, le vol en triangle des oiseaux, les falaises, les nuages. Et je vis tout cela sans rien dire, avant d'en venir à sa main de vieille femme, sa paume marquée de sillons nets, ce réseau incompréhensible qui est une autre forme d'écriture. Et je pensais aux mots imprononcés et inconnus, seuls capables d'exprimer ce texte omniprésent dans une langue qui soit audible par l'homme. Hildegard hocha la tête. « Il est des choses plus faciles à saisir, conclut-elle, lorsqu'on ne sait presque rien et que tout reste à comprendre. »
Merci. Qu'est-ce que ça dit d'elle, justement, cette dernière phrase ?
Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si ça dit quelque chose d'elle ou si ça dit quelque chose de moi. Enfin, j'ai essayé, dans cette partie-là, sur la vie elle-même de Hildegard, c'était vraiment le cœur de mon problème et le cœur de mon sujet, qui était de décrire Hildegard. Et dans ma documentation, j'ai énormément rencontré de livres et d'autrices et d'auteurs qui donnaient en réalité leur version d'Hildegard, ce qui est un désir tout à fait compréhensible et qui est même presque indispensable, mais ce n'était pas mon projet littéraire. Donc, j'ai décrit Hildegard par le biais de dizaines de personnages qui en font des portraits extrêmement différents, à différents âges de sa vie, mais aussi qui en présentent une femme qui a l'air d'être fragmentée. Et je crois que moi, je n'ai pas d'opinion, en fait, sur Hildegard. C'est-à-dire que ce que je cherchais à faire dans ce livre, c'était de faire un livre qui soit habitable par chacune et chacun et qu'on puisse se fasciner pour ça, en fait, pour cette figure. Et derrière, c'est aussi la question, c'est une question qui me travaille, qu'est-ce que c'est qu'un personnage, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un héros. Et en l'occurrence, là, c'est un récipient, j'ai l'impression. C'est une femme qui a réellement existé, qui a travaillé à ce qu'on se souvienne d'elle d'une façon qui lui convenait, et ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que dès qu'elle est morte, les gens ont investi ce personnage de leur désir, et je trouve ça captivant, en fait. Et je pense que mon travail n'était pas de refermer ça, en fait.
C'est aussi une façon, je pense à ce chapitre-là en particulier, avec toutes ces voix, y compris des voix qui peuvent être parfois, pas discordantes, mais en tout cas, une lecture différente de Hildegard. C'est aussi une façon de d'écrire ou de dire tout ce qui est perdu dans l'histoire.
Oui, oui, absolument. Ouais. C'est... Et tout ce qui est perdu, et comment on mesure ça, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on mesure les trous, et qu'est-ce qui fait le plein? Et le plein, c'est des récits. C'est énormément de récits. Et même, il y a une chose qui est très intéressante, c'est la distance que j'ai vue en faisant mes recherches historiques entre la matière des historiennes, historiens contemporains, et les gens de l'époque qui écrivaient l'histoire. Et c'est très étonnant, en fait. C'est-à-dire que les témoins, par exemple, de la deuxième croisade qu'on a, racontent des histoires qui nous paraissent folles, en fait, qui paraissent réellement folles. Et c'est les gens, c'est les témoignages de première main, c'est les gens qui y étaient. Et donc, il y a aussi cette chose-là, c'est avec quelles histoires on constitue l'histoire. Et voilà, c'est comment est-ce que les récits, c'est-à-dire en réalité des désirs, constituent la science et la matière historique avec laquelle on continue de traiter, quoi.
Poésie et ainsi de suite, Manou Farine.
Et aujourd'hui à la technique, Alex Dang, à la réalisation June Lauper avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous, Léo Henry, dans le roman, alors vous avez dit roman historique, on dit roman historique ?
Ouais, on peut dire ça, ouais.
Le roman Hildegard reparaît aux éditions La Volte, Hildegard donc moniale bénédictine de la fin du haut Moyen-Âge, mystique, poétesse, guérisseuse, compositrice, à qui l'on doit des dizaines de chants cantiques et un drame liturgique. Vous avez dit comédie musicale tout à l'heure, ouais. Mais nous, on écoute ça.
J'ai tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit. J'ai tout dit. C'est gravé dans le marbre, tout dit. Hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur Hildegard, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai fui à la hussarde, tout dit, tout dit, tout dit.
Un extrait de Toudi de Camille, hein, qui date de 2011. On aurait pu en écouter, il y en a eu d'autres, hein, des chansons autour de Hildegarde, de Léo Henry. Il y a sa musique, évidemment, à elle. Est-ce qu'elle s'envisage comme ses écrits?
La musique de Hildegarde?
Oui.
Oui, je pense. Il y a une vraie continuité. En fait, il y a une vraie continuité entre tout. C'est-à-dire que la vie de Hildegarde est complètement construite par son engagement, en fait, engagement c'est même pas le bon terme, mais sa pratique religieuse, et la musique, elle l'a composée pour sa communauté, pour ses sœurs, les poèmes, elle les a écrits, c'est les paroles des chants, en fait, et pareil, la comédie musicale ou le drame lyrique, c'est tout dans le même but, en fait, dans le même objectif, qui est un objectif de communion, en fait, avec le transcendant et avec Dieu. Donc je pense que tout est extrêmement cohérent et tout est extrêmement opaque aussi. C'est-à-dire que même cette façon-là d'envisager la relation au divin nous est devenue extrêmement exotique. Enfin, 1000 ans sont écoulés et il y a beaucoup de choses qui nous sont plus du tout compréhensibles. Et donc il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la fascination.
Étant donné que à ce moment-là, tout le monde ou presque vit dans le livre, ou en tout cas ou dans la foi, donc ça c'est la chose entendue pour tout le monde. Après, il y a la particularité de Hildegarde, parce qu'il est aussi question d'un moment de la littérature, d'un moment du livre, d'un moment de la lecture aussi. Dans ce livre-là, qu'est-ce que ce 12e siècle-là vous permet de dire de la littérature, vous permet de dire du livre?
Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête immédiatement. Alors, il y a quelque chose qui est pas tant sur le livre que sur le réel. C'est un moment où des régimes qui pour nous sont extrêmement séparés et très clairement distincts le sont pas du tout. Donc, ce qui est observé matériellement, ce qui est rêvé ou imaginé, et ce qui est de l'ordre donc du récit biblique, et donc et tout ça est mêlé et ne fait sens qu'ensemble et pas séparément. Donc ça crée nécessairement des œuvres d'art qui sont très différentes à cause de ça. Et l'autre chose qui se produit à ce moment-là, c'est que je pense que c'est un moment de bascule, c'est-à-dire qu'à la mort de Hildegarde, à peu près au moment où elle décède, donc à la fin du XIIe siècle, c'est le moment où, en quelques années, sont mis par écrit pour la première fois la matière orale des grands récits de l'Occident, donc la matière arthurienne, la saga des Nibelungen. Donc c'est les premières, c'est Chrétien de Troyes, c'est les premières version de cette matière-là, qui est bien évidemment très antérieure, mais qui devient à ce moment-là écrite et qui, de ce fait, devient partageable et s'entremêle. Et il y a une espèce de fantasy-verse qui se crée à ce moment-là parce que les conteurs et conteuses s'amusent à mélanger les récits et à faire rentrer Siegfried dans le récit du roi Arthur.
Vous revenez, il y a tout un chapitre qui revient sur ce moment, en effet, où se fixent les légendes européennes, d'une certaine manière. Alors, y compris dans un grand mix. Alors justement, dans le dernier chapitre, Léo Henry, Mayence, vous faites notamment intervenir deux poètes, Guillaume de Provins et Friedrich von Weldecke. L'un « Porc fait l'homme », l'autre « Diable fielleux », écrivez-vous, mais aussi « L'archipoète », selon duquel se cachait un poète virtuose de la seconde moitié du XIIe siècle, en Allemagne aussi. Qu'est-ce qui se joue entre ces trois figures-là que vous rassemblez dans un long chapitre?
Ouais, c'était aussi essayer de montrer, c'est l'avant-dernier chapitre, et je commençais aussi à avoir, j'avais passé beaucoup beaucoup de temps dans les couvents, et j'avais passé beaucoup de temps en compagnie de religieuses, et en très docte considération, et en analyse biblique, et c'était une façon aussi de montrer un contre-champ de ça, ou un extérieur à ça. Donc ça se passe pendant une très grande fête, la plus grande fête qui a été faite à cette époque. C'est Barberousse qui organise une grande fiesta pour ses enfants et qui fait venir, enfin, où tout ce que l'Occident ou l'Europe proche compte d'artistes vient pour se rencontrer et puis pour festoyer. Et donc c'était l'occasion de faire se réunir trois figures importantes de la poésie de cette époque-là, qui sont des gens qui essentiellement avaient des carrières de chanteurs et donc de tradition orale, mais qui représentent aussi tout un... Je ne sais pas comment dire, tout un monde extrêmement concret, en fait, et de récits à la fois très imprégné de cette réalité biblique et en même temps de parler de désir, de parler de gourmandise. Voilà, donc c'était l'occasion aussi de mettre en scène d'autres choses de ce moment-là.
Surtout qu'elle elle en parle assez peu.
Alors ça, c'est un peu... À la fois, elle en parle assez peu, et c'est une des choses qui a beaucoup intrigué le 18e, 19e siècle sur son œuvre, c'était que c'est quand même présent. Et donc, elle a un traité sur la sexualité, et que c'était des choses qui embêtaient vraiment beaucoup les exégètes, parce que ça ne correspondait pas à la vision qu'on se faisait à ce moment-là d'une femme de foi, et en particulier d'une abbesse.
Elle parle de la sexualité des époux.
Absolument, oui, oui. Et puis elle a eu un peu des soucis à la fin de sa vie. Sa hiérarchie lui a reproché de prêter trop de soins aux coiffures et aux habits et de cérémoniales et d'être trop dans la beauté, en fait, dans la recherche d'une élégance et d'une jouissance, en fait, par le beau. Et sa réponse est absolument incroyable. En fait, elle dit, Dieu aime ça, en fait, qu'on soit belle.
Alors, il n'est pas question de faire des écrivains de nouveaux abbés ou nouvelles abbesses, mais Hildegard écrit les visions telles qu'elles lui apparaissent, et c'est bien sûr Dieu, évidemment, qui parle en elle, où la voix et la lumière lui parviennent simultanément. Cette idée de vision, qu'en pense l'écrivain que vous êtes, c'est-à-dire l'idée de noter tout ce qu'elle a entendu, ou tout ce qu'elle a vu, et d'en faire écriture?
Les visions d'Hildegard sont assez stupéfiantes. En fait, il y a énormément de visionnaires à cette époque-là. C'est une pratique assez courante, et il y avait une visionnaire beaucoup plus célèbre que Hildegard à quelques kilomètres de son couvent, qui a eu une postérité beaucoup plus importante. Les visions de Hildegard sont très très spéciales, et moi je crois que ce que je préfère avec ces visions à elle, c'est la dimension graphique. C'est-à-dire que dans le Risen Codex, dans le livre qu'elle a fait compiler à la fin de sa vie, les livres de vision sont illustrés vraisemblablement par des moniales de son couvent. Et ses dessins sont incroyables. Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, ils sont vraiment tous plus stupéfiants les uns que les autres. Et c'est des visions cosmiques, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est pas très narratif. Et ça ne ressemble pas exactement à un rêve, c'est vraiment des visions sur la nature du monde. Et le monde est absolument stupéfiant.
Alors on va se quitter quand même avec quelques notes de Hildegard qu'on puisse entendre. Alors c'est un extrait de Ego Sum Homo, ça s'appelle Otu Illustrata, interprété par l'ensemble Tiburtina. Hildegard a reparu dans les éditions La Volte et puis toujours disponible en folio. Léo Henry, merci infiniment d'être venu nous en parler. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix L'Hebdo que vous pouvez réécouter, partager, podcaster sur le site de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.